Divers aspects de la pensée contemporaine, une émission de la Fédération nationale de la libre pensée préparée par Jean-André Mondrain et Patrice Sifflet. From the dusty mesa, a looming shadow. L'an dernier, nous avions traité de la situation de l'Église à la Libération et dans les premiers mois de la 4e République. Nous allons maintenant évoquer ces situations avec l'avènement de la 5e République. Alors, une première surprise. On constate, après la Seconde Guerre mondiale, une réconciliation de la hiérarchie catholique avec le régime, amendé il est vrai, de séparation.
Oui, surprise, je n'en suis pas sûr. L'Église a toujours montré sur longue période une capacité d'adaptation aux circonstances et au sens du vent qui est une de ses forces. En effet, les évêques écrivent en novembre 1945 leur vision de la reconstruction de la nation dans laquelle ils admettent le principe d'une juste laïcité, qu'ils opposent une prétendue laïcité persécutrice de la Troisième République et une laïcité comme système de distinction entre l'Église et l'État ou... dans les sociétés divisées de croyances comme régime de liberté de la foi. Cette ouverture n'est pas dissociable du contexte de la libération. Les évêques, nous l'avons rappelé dans notre dernière émission, sont alors pour une large part discrédités par leur soutien au gouvernement de fait de Vichy, ou au moins par leur passivité. Leur légitimité aurait été plus atteinte encore s'ils avaient persévéré en défendant un principe de confessionnalité de l'État dans une attitude d'opposition à l'esprit de liberté qui souffre alors de toutes parts.
Mais alors, comment cela s'exprime ?
Bien, d'abord, la hiérarchie constate que l'instauration de la Ve République bénéficie de la caution de Pie XII, certes décédée le 9 octobre 1958, au moment où de Gaulle mettait en place les nouvelles institutions. Ainsi, le 16 septembre 1958, l'évêque Weber, au nom de ses collègues, déclare « Le projet gaullien n'exprime nul rejet de principe de la religion chrétienne, ni de volonté systématique de méconnaître les libertés religieuses essentielles.
Oh, » oh, mais peut-on les croire ?
La hiérarchie ne s'interdit nullement sur tel point particulier de revendiquer. Sa conception des libertés religieuses essentielles l'entraînera par exemple à susciter et à conduire des mobilisations d'importance en faveur de la représentation proportionnelle scolaire. Elles déboucheront après les lois Barry et Barranger de 1951 sur la loi Debré de 1959 qui introduit une remise en cause radicale très favorable à l'enseignement privé du dispositif légal antérieur.
Ah, pourriez-nous en dire plus sur cette loi Debré qui, dès le début de la Ve République, marque apparemment une évolution de fond ?
La problématique de cette loi va bien au-delà du seul problème du respect des règles de laïcité. Il est un fait que la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements privés est communément appelée loi Debré.
Ben, où est le problème ? Où voulez-vous en venir ?
Eh bien, un usage ancien fait que l'on donne à une loi le nom du ministre rapporteur. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, la loi Fadou, sous la 4e République, la loi Barry, mais pas le nom du chef de gouvernement, ce que l'on pourrait croire en parlant de loi Debré. Eh bien, en fait, le ministre de l'Éducation nationale, au moment du vote de la loi, était bel et bien Michel Debré, certes pour un bref intérim. Le ministre rapporteur initial, André Bouloche, démissionne en effet le mercredi 23 décembre, au début du débat parlementaire, s'estimant désavoué, à la suite de la délibération du Conseil des ministres du même jour, et Michel Debré assure donc l'intérim du ministère de l'Éducation nationale du 23 décembre 1959 au 15 janvier 1969, date de la nomination de Louis Jox.
Oh, c'est intéressant ça. Alors qui était cet André Bouloche ?
Bien, André Bouloche est une belle figure de l'histoire républicaine. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, compagnon de la Libération... ce qui même pour De Gaulle n'est pas rien. Son père, sa mère, son frère aîné ont été assassinés par les nazis. Ce n'est pas de ces socialistes de circonstance. Député FGDS de Montbéliard, membre du contre-gouvernement de François Mitterrand, il reste une figure de la gauche jusqu'à son décès accidentel entre les deux tours des élections législatives de 1978. Rappelons qu'en 1958, la SFIO s'est résiliée au retour du général de Gaulle et que Guy Bollet a participé à l'élaboration de la nouvelle constitution promulguée le 4 octobre 1958. Donc le premier gouvernement de Bray comportait des personnalités de gauche dans un esprit apparent d'union nationale. André Bouloche était un de ses alibis, même s'il s'était mis en congé de parti pour accepter son poste ministériel.
Et alors il démissionne donc au cours des débats ?
Très exactement, lors du débat sur le premier article, celui qui pose les principes. Les MRP, Parti de droite, Mouvement républicain populaire, les mauvaises langues disaient machine à recycler des pétinistes, déposent plusieurs amendements à l'article premier qui sont examinés, chose exceptionnelle, en Conseil des ministres. Et De Gaulle, en personne, tranche pour l'acceptation du premier de ces amendements. Bouloche démissionne immédiatement pour être remplacé au pied levé par Michel Debré.
Oh, ce point est donc très sensible. Est-ce que De Gaulle en fait-il l'état ?
Bien, dans le premier volume de ses mémoires d'espoir, malheureusement inachevé, publié le 1er octobre 1968, soit quelques semaines avant sa mort subite, Le Renouveau, au chapitre intitulé « Le chef de l'État », De Gaulle revient sur son interprétation de ses prérogatives constitutionnelles. « Je ne manque évidemment pas de me concentrer sur les questions qui revêtent la plus grande importance générale. Au point de vue politique, ce sont en premier chef celles qui concernent l'unité nationale, ainsi du problème de l'Algérie, des rapports d'association qui remplacent cette souveraineté dans l'Union française, du statut de l'enseignement privé qui met un terme à 60 ans de guerre des écoles. »
Ah ça, c'est surprenant. Mettre le problème de l'enseignement privé quasiment sur le même plan que l'Algérie ou la décolonisation. Et en fait, De Gaulle revient-il sur la démission d'André Bouloche ?
Eh bien oui, mais avec pour le moins une certaine hypocrisie, car je ne saurais croire d'une défaillance de la mémoire proverbiale du grand homme. Benoîtement, quand il dresse un bilan des gouvernements Debré lors du remplacement de celui-ci par Pompidou en avril 1962, le général n'hésite pas à écrire « certes ». À mesure du temps, il se produit des changements dans la composition de cet ensemble de 27 personnes, donc les gouvernements Debré, en sont sortis André Bouloche, qui, ayant mis sur pied le projet de loi sur l'enseignement privé, a préféré ne pas en faire lui-même l'application. En termes galants, ces choses-là sont dites. Le Monde relève que cette démission est la quatrième depuis la constitution de ce gouvernement, et ce n'est pas fini. Je ne sais pas si en octobre 1970, André Bouloche a eu le temps de réagir à cet habile travestissement des faits.
Mais en fait, quel est le point d'achoppement apporté par cet amendement ?
C'est très clairement analysé dans un article de Pierre Viançon-Ponté, publié dans Le Monde daté du 24 décembre, donc le soir même, intitulé « Le gouvernement accepte un amendement à l'article 1er. Monsieur Bouloche remet sa démission à Monsieur Michel Debré ». Ce titre rappelle la chronologie exacte des faits. L'article, par la pertinence de son analyse, mériterait d'être entièrement cité. Nous nous limiterons ici à l'essentiel, à la question posée. Le gouvernement peut-il accepter un remaniement de l'article 1er du projet ? André Bouloche répond non, soutenu par Jean-Marcel Jeannet. Cependant, trois autres ministres. Rochereau, élu de la Vendée, ministre de l'Agriculture, qui finira au Front National. Lecourt, MRP, ministre d'État chargé de la coopération, qui finira dans les institutions européennes. Et Joseph Fontanet, secrétaire d'État à l'industrie, auprès de Jeannet, qui finira lui tragiquement, argumente habilement, et le général tranche pour l'acceptation de ce premier amendement qui n'est pas si anodin. Puisqu'en inversant l'ordre des LIDA, il élargit la liberté de l'enseignement professé par les établissements privés. Par ailleurs, il introduit la notion floue de caractère propre de ces établissements. Viançon-Ponté note avec une certaine malice que dans le dernier LIDA, la collection complète des mots-clés qui servent de fétiche aux deux camps, en quelque sorte, figurait dans cette phrase ingénieuse. Voici donc le texte définitif de l'article 1er. Premier alinéa, suivant les principes définis par la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toute disposition utile pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès. La loi est donc votée le 31 décembre 1959 et promulguée au journal officiel du 3 janvier 1960. Ce sont les étrennes du général, comme un rappel du Noël du maréchal, la loi du 25 décembre 1942, qui modifie l'article 19 de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, sous prétexte de faciliter l'entretien des églises, texte qui ne fut pas abrogé à la Libération.
En fait, c'est sur peu de choses que ce texte est devenu inacceptable pour les défenseurs de la laïcité.
Bien, peu sur la forme, beaucoup sur le fond. Comme l'a dit Confucius il y a 25 siècles, les grands principes ne tolèrent pas la moindre transgression.
Soulignons au passage que l'enseignement privé est presque exclusivement catholique. Et le reste aujourd'hui. En 2012, on pouvait compter 7355 établissements d'enseignement catholique, soit un peu plus de 98% du total, 128 établissements israélites, 5 établissements protestants et 3 établissements pour le réseau musulman. On voit clairement à qui profite la loi Debré. Cela étant, les conséquences politiques sont importantes.
Certes, cela a été parfaitement vu par Viançon-Ponté. La Ve République se coupe de sa gauche, puis les MRP démissionnent en bloc le 15 mai 1962, à la suite de la phrase du général en conférence de presse « Sur quelque espéranto veut la puque intégrer » qui heurte leur vision fédéraliste de la construction européenne, laissant le tout jeune gouvernement Pompidou, soutenu par son seul parti Godillot, et une droite dite indépendante, incarnée par un jeune ministre dont le général relevait qu'il avait un nom d'emprunt, éteint depuis 1794 et sans parenté avec l'honorable famille Giscard de Clermont-Ferrand. C'est cette majorité affaiblie qui va, à l'automne de 1962, affronter le cartel des noms face au référendum d'octobre sur l'élection du président au suffrage universel. Le oui gagne cependant avec 62% des votants et 23% d'abstention, ce qui fait, rappelons-le, un peu moins de 48% des électeurs inscrits. Mais le cartel va se fissurer lors des élections législatives qui suivent en novembre, d'où une large victoire du parti du général avec seulement 35% des voix. Les cicatrices de la loi Debré ont alors pesé. Elles pèseront bien plus pour provoquer directement l'échec d'une candidature de fer, appuyée sur une grande fédération allant de la SFIO au MRP et qui aboutit à une impossibilité à non possibus, dirait-on, Vatican, le 17 juin 1965 sur la question de la laïcité. Il appartiendra donc à François Mitterrand de relever le défi à partir du mois de septembre.
Finalement, c'est bien joué de la part du général.
Je ne pense pas qu'en mettant André Bouloche en porte-à-faux, il ait vu si loin. De Gaulle était un catholique sincère. Sur ce plan-là, rien à voir avec Pétain, homme sec sans conviction autre que l'opinion qu'il avait de lui-même. Son père, Henri de Gaulle, était en son temps une personnalité de l'enseignement confessionnel. Son attitude vis-à-vis de l'enseignement privé est d'abord un engagement personnel. Je partage votre surprise quant à l'importance qu'il donne à la question. Le moins que l'on puisse dire est que son souhait de mettre un terme à 60 ans de guerre scolaire n'est pas exaucé. Au contraire, la loi Debré relance un débat toujours ouvert, mais il en retire un bénéfice politique qui lui facilite l'installation d'un pouvoir personnel. Cela étant, la réaction de l'opinion publique est vive.
Ah, en effet, le vote de cette loi provoque une forte réaction chez les laïcs, qui descendent dans la rue par centaines, par milliers. Le mouvement de protestation s'organise. Une pétition nationale recueille 10 813 697 signatures. Le 19 juin 1960, 400 000 militants laïcs se rassemblent, on le sait, sur la pelouse du bois de Vincennes. Ils prononcent le serment de Voissène. Le voici. Nous faisons le serment solennel de manifester en toutes circonstances et en tout lieu notre irréductible opposition à cette loi, contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation et d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse.
Dans le discours prononcé le 19 juin 2010 par Marc Blondel, président de la Fédération nationale de la libre pensée, à l'occasion du 50e anniversaire du serment de Vincennes, celui-ci rappelle que le mouvement s'est organisé À l'initiative du Comité national Action laïque, les organisations syndicales CGT, Force ouvrière, UDEF, les partis politiques SFIO, Parti communiste, PSU, Parti radical, UDSR, Union progressiste socialiste indépendante, les associations Ligue des droits de l'homme, Fédération nationale des combattants républicains, le droit humain, la Grande Loge de France, le Grand Orient de France, l'Union rationaliste et le nôtre, la Fédération nationale de la libre pensée. Une campagne de pétition fut initiée qui a recueilli près de 11 millions de signatures. Cette pétition rappelait que la laïcité était le principe fondamental de la République française et qu'elle était indissociable de la démocratie. Elle dénonçait donc la loi Debré d'aide à l'enseignement privé comme anti-républicaine et un germe de division et d'intolérance dans notre pays, anti-républicaine, parce que le produit d'une doctrine spirituelle qui se veut supérieure.
Alors, quelle a été ensuite la position des différents gouvernements de la Ve ?
Eh bien, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Restons-en aux présidences du général de Gaulle et au discours de Marc Blondel. Votre dernière question pourra être l'objet d'une émission ultérieure. Il y a, hélas, beaucoup à dire. Non seulement la loi Debré n'a pas été abrogée, mais elle a servi de base à de nombreux glissements successifs, souvent sous des gouvernements de gauche. N'oubliez pas que pour l'Église, ce n'est jamais assez. L'auditoire aura pu remarquer que le mouvement gaulliste se séparant de sa gauche puis de son centre, ça n'est pas sans faire penser à de petites répliques contemporaines. Quant aux tentatives de bidouillage de la loi de 1905 via une instrumentalisation de l'islam, on peut craindre que les apprentis sorciers ne soient appelés à méditer cette pensée de Mao sur ces gens qui soulèvent des pierres qui finissent par leur retomber lourdement sur les pieds.
C'était donc les divers aspects de la pensée contemporaine. À la technique, nous avions Inès de Bruyne. À la réalisation, Perret Legras. Et avec la collaboration de Claire Poinsignon.